La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Par où dire ?
Anne, ça fait 35 ou 36 ans que je suis ici. Je pourrais raconter beaucoup de choses, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est ce que j'appelle le travail intérieur, car on est à Auroville pour bâtir des hommes avant de bâtir des immeubles ou des choses comme ça. Et en fin de compte, ce qui est intéressant en ce qui me concerne, tout ce que je dis ne concerne que moi, c'est de voir comment notre réalisation intérieure se reflète à l'extérieur. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, la chose que l'on peut remarquer le plus, qui est la plus flagrante, c'est l'afforestation. C'était un désert et en 50 ans, on en a fait une oasis.
Et à une fois, j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable avec le long des étangs.
Une maladie honteuse. Vous
allez où ? 11e.
Ces lieux nous parlent.
Architecture. Les 50 ans d'Auroville. Avec à Auroville, Anne, Gilles Guigan, Ernest Imhoff, Serge Mani, Isis Roupagès, Gérard Maréchal, et à Cudessart, Fernand Platbrot. Architecture, les 50 ans d'Auroville. Auroville en Inde, dans l'Inde du Sud, dans le Tamil Nadu, tout près de Pondichéry. Architecture, les 50 ans d'Auroville, par Thierry Genico. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.
Ils sont en train de mélanger de la terre normale en fait avec de l'eau pour l'humidifier avant de pouvoir au fond débuter la construction d'un mur en pisé. Avec deux planches latérales posées sur une base de muret, vissées, solidifiées, etc., ils vont remplir l'interstice entre ces deux planches. Et ils vont faire, au fond, par couche, ils vont faire une première couche de terre normale. Et puis après, ils vont faire une petite couche avec cette terre internationale, si je peux dire, qui provient des différents pays d'Europe et du monde. Continuer avec de la terre normale. Et c'est pour ça que c'est un peu un symbole de construction de la terre dans son ensemble. Alors ils ont cette pelle qu'on trouve en Asie, qu'on trouve au Népal, chez les agriculteurs, c'était avec un tout petit manche et puis la pelle, la partie métallique, elle est au fond très incurvée. C'est un outil dont ils ne peuvent pas se séparer, malgré qu'il nous semblerait qu'un manche plus long, il se fatiguerait moins. Mais on a vu ça au Népal notamment, ça leur permet de ne pas creuser trop profondément la terre. Donc il y a toujours une bonne raison.
Dans la terre, on a des grains, mais on a aussi de l'air et on a aussi de l'eau.
Isis Roupagès.
Pour construire, on a toujours besoin d'enlever l'air. La seule chose qu'on enlève à la terre pour construire, c'est l'air. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des grains de différentes tailles, parce que les moyens grains peuvent aller entre les gros grains, les petits grains entre les moyens, l'argile y va entre les tout petits bouts, et on a un élément le plus compact possible. Ensuite, on a de l'eau. L'eau, elle est essentielle pour construire parce qu'elle réagit avec les plaquettes d'argile. L'argile, c'est le plus petit grain de la terre et c'est le grain magique qui réagit avec l'eau. Donc là, on a une colle. Donc pour construire, on enlève l'air et on met de l'eau. Et la dernière chose qu'il y a dans la terre, qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui est mise en œuvre quand on construit, c'est les forces.
Alors la terre, elle n'est pas tout à fait normale. Elle est mélangée avec 5% de ciment, c'est ce que l'architecte m'a dit, et un peu de sable. Et un peu de sable. Donc ça fait un mélange de terre et de ciment qui va quand même permettre à cette terre de se durcir et d'être plus résistante à l'usage.
Et c'est peut-être ça le karma yoga. C'est de travailler, on va dire, en conscience, tout en sachant que la conscience est une aventure qui ne finit jamais. Donc, il y a beaucoup de travail. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez savoir ?
Gilles Guigan, je suis parisien, j'ai 71 ans, je suis ici à Auroville en permanence depuis 80. J'ai passé donc plus de la moitié de ma vie ici. Je suis venu la première fois ici en 73, juste après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur en génie civil. J'ai fait mes études, bien que je sois parisien, je suis allé faire mes études d'ingénieur à l'École Polytechnique Fédérale Suisse de Zurich.
Ernest Imhoff, nous venons de Suisse.
Quand les gens me disent, on peut aller voir la boule ?
Mais j'aime bien l'architecture, c'est vrai. Ben oui, parce que c'est là-dedans qu'on habite quand même. Hein. Oui, et surtout ici à Auroville, je trouve qu'il y a des tentatives d'architecture qui permettent aux habitants de vivre d'une manière plutôt bonne, enfin, plutôt même excellente, dans la nature. Et c'est pas très agressif, enfin voilà, c'est intéressant. Avec des volumes adaptés au climat. Les gens ne sont pas serrés comme dans des sardines. Enfin bref, c'est assez bien. Voilà. Je note pisé.
Quand les gens me disent « on peut aller voir la boule ?» Ils regardent ça comme une curiosité. Ce n'est pas une curiosité, le matrimonial. C'est une action. Aller au matrimonial, c'est une action.
Il n'était pas à Auroville quand je suis venu. En fait, c'est un architecte italien qui a construit le matrimonial. Ce n'est pas lui. L'architecte français, Roger Anger, a conçu le matrimonial, a fait les plans d'origine, etc. Mais l'architecte, le site architect, l'architecte du site, celui qui a dirigé les travaux, c'est un architecte italien qui s'appelle Piero Ciccianesi et qui a fait un travail extraordinaire. C'est lui qui faisait la liaison avec les ingénieurs de structure. C'est lui qui faisait les plans d'échafaudage, les plans de coffrage. C'est lui qui disait ce qu'on fait et quand, etc. C'est lui qui a tout fait. Incroyable. C'est lui qui a fait le système de poursuite par ordinateur pour tout calculer. Il a fait un travail absolument extraordinaire. Et quand il a fini la structure, à ce moment-là, Roger Anger est venu à Auroville et il a pris la finition. Et l'Italien, en fait, n'avait pas envie de faire ça. Ça ne lui correspondait pas du tout. Il a fait un travail fantastique de la construction.
Ouais. Et qui construisait ?
Nous. C'est nous.
Nous.
Moi, j'ai été monteur d'échafaudage, j'ai été ferrailleur, j'ai été maçon, on est passé les gamelles de béton, etc. On a tout fait. J'ai fait beaucoup de poutrelles fabriquées, etc. C'est nous. C'est nous. Nous avons construit le matrimonial, mais en même temps, le matrimonial nous a construit. Vous savez, on appelle ça bonding, pour mettre les gens ensemble. C'est très bien qu'ils font ça, travaillent ensemble, non ? Il y a des gens qui font du whitewater rafting, des entreprises où ils emmènent leurs employés, des groupes d'employés, faire quelque chose de physique ensemble, non ? Pour qu'ils aient vécu un peu de danger, un peu de trucs pour qu'ils soient ensemble, qu'ils aient vécu quelque chose ensemble. Donc nous, on a construit le matrimonial et ça nous a construit, nous. On a construit le matrimonial. Beaucoup d'entre nous ont travaillé au matrimonial. Et ça nous a fait beaucoup de bien à tous. Le matrimonial symbolise notre aspiration à une conscience plus haute. Et la mère en parlait comme étant la force centrale, la force de cohésion d'Auroville. Parce que vous savez, aujourd'hui on est 2800, on vient de plus de 50 pays différents, de tous les états de l'Inde pratiquement. On vient de toutes les religions du monde, il y a même des gens athées, on connaît. On a des cultures complètement différentes. Il y a certains d'entre nous qui ont les meilleurs diplômes des meilleures universités indiennes ou étrangères, d'autres qui ne savent pas lire ou écrire parce qu'ils viennent de la section la plus pauvre des villages voisins. Il y a des gens qui viennent de familles avec de l'argent, il y en a beaucoup plus qui viennent de familles extrêmement pauvres, socialement, etc. À tous les niveaux, c'est complètement différent. Et je dis toujours aux gens, dans votre propre famille, beaucoup de membres de votre famille ont des idées très différentes des vôtres, mais ici, dans notre famille étendue de 2800 personnes, on a des idées complètement différentes sur absolument tous les sujets. Et pourtant, on est là pour être ensemble, vivre ensemble, travailler ensemble, etc. Il faut quelque chose qu'on partage tous en commun, et ces choses qu'on partage en commun, et le reste, toutes les différences ne sont pas graves, c'est cette aspiration à une conscience plus haute. C'est ça. C'est le ciment d'Auroville, c'est l'aspiration à une conscience plus haute. Et c'est ça que le matrimonial symbolise.
Le karma yoga, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que c'est travailler, faire, réaliser en conscience. Réaliser par le travail, c'est in and out, l'intérieur et l'extérieur, sont complètement liés. Et un vrai travail passe par une créativité. Et la créativité, à mon avis, passe par un travail intérieur. On ne crée pas comme ça les copies-collées, c'est fini. Et ça, on le voit partout dans le monde. C'est fini. Encore plus ici. Alors, ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est qu'on a 50 ans d'existence, comme vous le savez. Et je dirais que ces 50 ans représentent la base. On a établi, créé la base d'Euroville. Ce qui va se passer après, je n'en sais rien. Je pense que de plus en plus, il faut aller vers la création. Vers une création, une belle création. Une création de beauté et d'harmonie. Alors, je dirais qu'avec nos forêts, si vous vous êtes promené dans Euroville, c'est là. Maintenant, il y a tout le reste. Il y a l'être humain. Il y a des bâtiments. Il y a tout. Tout ça doit être une création, une belle création et harmonieuse.
Mon nom français, c'est Serge Maïni, mais j'habite ici depuis 28 ans et demi et je suis connu sous le nom de Satprem, qui est un nom indien. Satprem aussi, c'est le nom d'un des plus proches disciples de Demer. C'était le confident de Demer qui a écrit les agendas de Demer. Donc c'est lui qui a enregistré tous les discours, tous les messages qu'avait donné Mère. Et donc c'est lui qui l'avait un petit peu transcrit comme ceci. Et moi, je suis le Satprem architecte.
Voilà. Et donc ça, c'est une pratique ancestrale redécouverte, on pourrait dire.
On pourrait dire, tout à fait. On a vu ça au Tibet, où ils font des terrasses. Alors ils sont tout un village ou plusieurs villages ensemble. Et ils chantent. Il tasse la terre comme ça, c'est magnifique. Quoi. Donc c'est une vieille technique, hein. Ouais, c'est vraiment bien. Et c'est solide, hein. C'est ça qui est là.
Euroville Earth Institute, donc l'Institut de la Terre d'Euroville, est un centre de recherche et de formation sur la construction en terre. Donc nous existons depuis 1989. Quand je suis venu ici, j'ai fondé ce centre. Et donc on s'est développé au fil des ans. Et en 2000, j'ai eu la représentation pour l'Inde, pour l'architecture UNESCO, architecture de terre et développement durable. Et plus tard, c'était en 2004, je crois que c'était augmenté à l'Asie. Et bon, c'est un petit peu une reconnaissance pour notre travail. Je compte 36 pays avec tous les pays où j'ai travaillé, même avant d'être en Inde aussi, dans le domaine de la construction en terre. Donc on a travaillé beaucoup en Afrique, dans une douzaine de pays en Afrique. Pas moins en Asie aussi, comme au Sri Lanka, où en ce moment on a un programme avec la communauté européenne pour construire 950 maisons dans les zones affectées par la guerre.
Oui, car le ciment est récent, hein, finalement.
Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Alors je pense qu'avant ils n'avaient pas de ciment, ils avaient, je sais pas, la terre glaise, ou j'en sais rien, je sais pas.
Bon, c'est plus une redécouverte, parce que la construction en terre, c'est très vieux. Par exemple, toutes les îles mineures étaient construites en terre. Donc les plus vieilles traces qu'on ait, c'est une adobe. L'adobe, c'est la brique séchée au soleil, en Syrie, qui est de 9000 avant Jésus-Christ. Donc c'est une brique de terre qui était formée à la main, comme une sorte de pain, mais avec de la terre, avec laquelle les gens construisaient. Donc il y a 11000 ans. Et c'est sûr qu'il y avait encore des traces, encore plus bien en-delà de ça, qu'on n'a pas découvert. Et je pense que la terre, avec les branchages, tout ce qui est construction légère, en végétaux, ça date des temps antiques, formant de l'homme de Cro-Magnon. Parce que tailler la pierre, ça demande des outils, alors que la terre, il faut juste creuser un petit peu, ajouter de l'eau, et puis on fait ce qu'on peut avec. Au fil des siècles, les techniques ont évolué, les savoir-faire ont été augmentés, et donc les gens ont fait des merveilles comme Yashibam. En France, il y a beaucoup de beaux exemples aussi en Pisé.
Et quand vous dites c'est chez moi ici.
C'est ici que j'ai vécu en permanence.
Et vous y travaillez ?
Oui, bien sûr, je travaille, bien sûr. Ouais, j'ai 71 ans, mais je continue à travailler.
Et que faites-vous ?
Je suis ingénieur génie civil, donc je me suis occupé essentiellement de la construction de beaucoup de bâtiments à Euroville. Mais je me suis toujours intéressé aussi au pourquoi et comment d'Euroville et toute l'histoire qui commence même avant Euroville, avec la chambre de Schrobindo, etc. Et donc maintenant. Un de mes vieux amis qui s'occupait des archives m'a demandé de prendre sa succession et j'ai dit d'accord, parce que c'était ce que je faisais comme hobby, comme passe-temps. Donc Je dis d'accord.
Je ne sais pas les moments, parce que chaque moment était fort. Hein. Bon, il y a eu plusieurs pierres du matrimoine d'hier. Puis après, piliers, il y avait Mère Donnette, elle envoyait des blessings. Alors, à chaque bétonnage, on mettait un blessing que Mère nous donnait. Donc, elle touchait des fleurs, puis elle mettait ça dans des... Enfin, elle mettait ça, les disciples mettaient ça dans des petites enveloppes. Puis vous tenez ça à votre anniversaire, donc vous gardiez pour vous, c'était une protection, c'était magique. Hein. Donc on gardait lui les signes de mère, donc on en mettait dans les piliers partout.
Ce matrimoine dire, c'est une... Beaucoup de gens qui vous diront, c'est très simple, c'est une grosse balle de golf, mais elle est dorée, c'est la seule différence. Donc c'est une sphère légèrement aplatie, elle fait 36 mètres de diamètre, mais elle est légèrement aplatie, donc elle ne fait que 29 mètres de hauteur. Elle est couverte de disques, il y a à peu près 1400 disques qui sont dorés, ils sont concaves et convexes, c'est un mélange. Il y a une très très fine pellicule d'or, et c'est entouré par, on pourrait dire, un cratère qui va au tiers de la hauteur, comme s'il y a quelque chose qui sort de terre, et ce cratère est coupé parce qu'il y a 12 chemins radio qui coupent ce cratère.
Ouais, il y a quatre piliers, donc mère était là. Elle est partie au dernier pilier, on finissait le dernier niveau. Elle est partie à ce moment-là, puis voilà. Et on était lancé.
Gérard Maréchal.
On était lancé. On n'arrêtait plus après. On était prêt à déplacer des montagnes, hein, c'est sûr. Hein. Mais elle était là, elle est là. C'est une conscience qui est là, c'est la conscience de... Parce qu'après, avec les années, on lit Chorbindo, on étudie mère, on étudie. Donc on découvre des choses, bon, qui sont mentales, hein, qui sont. Quand il parle de la mort, par exemple, qu'est-ce que la mort? Mais c'est aussi des. Quand on étudie des textes indiens, les Védas, les Upanishads, la Gita, là, ce sont des textes qui ont 8000 ans. On parle de la mort aussi, de comment ça se passe. De... Chorbindo reprend ça parce qu'il a son expérience. Il dit la vie ne s'arrête pas à la mort. Quoi.
Et en Europe aussi, nous n'avions pas de cimetière, bien sûr.
Alors, on m'a dit qu'en France, il y a encore des maisons qui sont faites en pisé.
Une bétonnière, une machine à faire le béton, puis un bout de grue pour monter les grues fait main. Ouais. Pas qu'un treuil, et puis on a un ingénieur qui est excellent. C'était pas compliqué à faire. Hein. Et bien le faire, plus solide, mais bien ancré, c'était pas des grosses grues au centre, il suffisait de lever tout par le centre, les boîtes de béton, les poutres en béton.
Notre mission principale, c'est de redonner aux gens les moyens de construire en terre. Parce que pendant des siècles, les gens construisent en terre d'eux-mêmes, il n'y avait pas toutes ces règles, les réglementations, les architectes, les ingénieurs, les règles à suivre au niveau urbanisme, ainsi de suite. Puis au fil des ans, au fil des siècles, les savoir-faire se sont perdus.
Bah, au début, on n'était pas beaucoup. Hein. On était très peu. Hein.
Je suis venu ici en 89. Je me suis retrouvé à être en charge de la conception, de la construction du centre de visiteurs. Et on n'avait que des machines indiennes de très mauvaise qualité qui n'étaient pas vraiment adaptées pour faire ce centre. Donc j'ai dû concevoir une machine qu'on appelle Oram, la presse Oram 3000, qui m'a permis de construire ce bâtiment. Une machine qu'on a beaucoup développée au fil des ans, en ajoutant des moules, des tailles de moules différents, des moules ronds, des moules de différentes tailles, carrées, rectangulaires, pour des ourdis par exemple aussi, avec de la terre. Donc au fil des ans, on a développé cette gamme de machines Oram et aujourd'hui, on a des machines motorisées. Parce que l'Inde suit maintenant la direction un petit peu de l'Europe et des pays développés avec des problèmes de main-d'œuvre. Aussi, étrange que ça paraisse, il y a 1 milliard d'habitants en Inde. On a de plus en plus de problèmes pour trouver des gens qui travaillent dans les chantiers et même des gens qui travaillent dans les rizières. Les fermiers ont beaucoup de travail pour aller à la porte de la récolte du riz. Parfois, il n'y a pas de main d'œuvre. Ils sont partis à Chennai pour aller dans les usines Renault. Ils sont partis ici et là dans les bidonvilles de Calcutta ou de Bombay. Il n'y a personne dans les villes, il n'y a personne dans les champs, il n'y a personne pour construire des bâtiments en Inde.
Serge Mani.
Par exemple, la main d'œuvre qu'on a ici, Elle va s'exporter au Kerala, qui est l'état du sud de l'Inde, ou alors au Karnataka, en Andhra Pradesh. Et donc, on doit faire venir des gens d'Orissa ici, des gens du Népal, des gens du nord de l'Inde, et une mouvance de main-d'œuvre incroyable en Inde. Et c'est abracadabra, ce qui fait que ça fait une main-d'œuvre esclave. On dit bondage de main-d'œuvre en anglais. Et donc, c'est pas acceptable ça. Alors que si on travaille de la terre locale avec des savoir-faire locaux, tout ce qu'on génère reste local. On n'a pas besoin de faire venir du ciment de très loin, on n'a pas besoin de faire venir de l'acier de très loin. On a une matière qui est sous nos pieds, dans le village même où les gens vivent. On creuse, on prend la terre, on fait des blocs d'adobe, des blocs de terre avec un petit peu de ciment si on veut, et on reconvertit le trou avec comme une rizière.
1969, année importante.
L'année importante, c'est l'année où j'ai quitté la France pour venir ici, le 15 août 69. Puis on est arrivé ici le 4 octobre. Beaucoup de hippies hein, qui prenaient la route. Donc, il y en a qui faisaient en stop.
Et ça, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire, c'est faire comprendre aux gens qu'ils savent beaucoup de choses, mais il faut qu'ils le refassent ressurgir d'eux-mêmes. Donc c'est comment puiser dans les savoirs locaux, comment retrouver ce qu'ils ont perdu et les convaincre que c'est bien.
Une quinzaine de personnes qui, c'est le véhicule, les vieux n'ont pas d'argent, donc c'est des véhicules d'occasion, des Citroën, des Peugeot. Voilà, puis on est parti.
Quand on demande aux gens si leurs maisons sont confortables, qu'est-ce qu'ils préfèrent avoir comme maison ? Ils vont nous dire, on préfère le béton, parce que c'est moderne, parce que c'est bien, c'est ce qu'il y a à Delhi, c'est ce qu'il y a à Shimla, c'est ce qu'il y a à Chandigarh. Mais on est mieux dans nos maisons en terre. Et ça, c'est l'incohérence des gens. Ils ont un mirage de la modernité, du béton, de l'acier, de tout ce qui est moderne, alors qu'eux-mêmes disent, on n'est pas bien dans ces bâtiments. Et ça, c'est un très gros travail de défaire ce qui a été défait par le béton, par tout ce qui est ingénierie, pour revenir aux traditions locales.
Personnellement, j'avais envie de partir depuis très longtemps. Depuis l'âge de 14 ans, j'avais envie de partir. Bon, comme ça, c'est pas très rationnel, mais je pouvais pas. Mon père voulait pas que je parte. Il m'a dit, tu attendras d'être majeur, tu peux faire ce que tu veux, mais pour l'instant, tu restes là, parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose derrière. Donc j'ai attendu mes 21 ans, et je faisais de la photo. Donc, je voulais faire un livre de photos, vous savez, pour aller présenter aux journalistes ou aux journaux, dire voilà, j'ai fait ça. Donc, on trouve une place dans un journal comme journaliste, photographe. Donc, j'étais sur cette énergie. J'avais un ami qui m'a présenté un petit bouclet sur Auroville. Alors, Auroville, il y avait un bouclet de mer qui est sorti à Auroville. La ville où il n'y a pas d'armée, pas de police, pas d'argent, pas tout ça. Alors, ça m'a touché, quoi. Et puis, il y avait une adresse, aller voir. Il y avait une association d'Auroville, donc j'étais la voir, et puis, on fait une caravane, si vous voulez. Et puis, tout s'est mis en route, quoi. C'était un peu miraculeux, parce que je n'étais jamais sorti de Paris. Et je me suis retrouvé, voilà, le 15 août, dans cette caravane, et je partais pour l'Inde. Alors, c'était pas facile avec la famille, qui était bien sûr...
On est un corps divisé. Et maintenant, il faut unir ce corps. Et unir ce corps, c'est d'abord s'unir soi-même. Tant qu'on n'est pas uni avec nous-mêmes... On ne peut pas s'unir avec l'extérieur.
Auroville, il n'y avait rien. Hein, de toute façon, quand on est ici, je sais pas, si vous avez vu des photos de... C'était une brique, hein, c'était comme ça. Il y avait des champs de cacahuètes, on voyait la mer d'ici, il n'y avait pas d'arbres. Il y avait le banyan, il y avait quelques cocotiers, quelques cachous, mais il n'y avait rien. Arrivé, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment un désert. Quoi. Il y avait quelques villages et tout. Ouais. Donc c'était difficile au début de dire où est-ce qu'on est tombé. Hein. Mais bon, il y avait beaucoup sont partis, hein, qui sont venus, puis sont partis quand même pas mal. parce que c'était pas évident. Bon, moi, je suis resté. Hein. J'ai essayé de partir aussi. J'avais un moment, j'ai dit, j'en ai marre, je vais partir. Mais je suis revenu ici. J'étais attaché avec un élastique.
Ouais. Et vous étiez combien à cette époque?
On était à Aspiration. Hein. On avait préparé un endroit, Aspiration, c'était des huttes. Donc, on était dans ces huttes. On était, je ne sais pas, Aspiration... En tout, on n'était pas une soixantaine, peut-être, même moins Aspiration. Il y avait déjà un peu qui avait des huttes dans Roisville, dans la Greenbelt. C'était très peu. Hein.
Gilles Bigand.
Donc la matière moderne, qu'est-ce qu'il représente? Il représente cette nouvelle création, cette nouvelle conscience qui émerge de la matière, parce que c'est cette impulsion d'évolution. Et donc il y a cette chose qui sort de la Terre et qui crée donc ce cratère autour du Matmandir. Il y a un second cratère plus petit, un peu plus loin, et puis il y a toutes ces vagues dans les jardins, dans le parc. Et donc, qu'est-ce qui a émergé, cette chose, cette nouvelle conscience? C'est une boule supramentale, un soleil supramental doré qui illumine la Terre avec cette nouvelle conscience. C'est l'idée de l'architecte. Et il a créé 12 chemins radio qui radient autour de ce soleil et qui donc coupent ces deux cratères successifs et créent les gros segments de cratères, les petits segments de cratères autour du Matmandir. Et donc voilà, c'est ça que ça symbolise. Deuxième chose. La troisième chose, c'est le lotus. Le lotus est un symbole très important en Inde. D'abord, Aurobindo en bengali, ça veut dire lotus. Arabinda, Aurobindo, ça veut dire lotus. En hindi, ça s'appelle Arvind. Le lotus, c'est un symbole très important, même dans toute l'Asie. C'est le symbole de la conscience divine. C'est pour ça que les représentations de certaines déesses indiennes, elles sont toujours au milieu d'un lotus. C'est la conscience divine. Donc. L'urne qui est au centre de l'amphithéâtre, elle est en forme de lotus. Donc on voit aussi le Matmandir comme étant un lotus gigantesque. Et donc on ne parle pas des segments de cratères autour de cette sphère, mais des pétales, des grands pétales et des petits pétales autour du Matmandir. C'est comme ça qu'on voit les choses. C'est trois images que l'architecte avait en tête quand il a fait le Matmandir. Mais c'est son invention. La chambre intérieure où on médite à l'intérieur du Matmandir, ça c'est une vision de la mer. Elle l'a expliqué à un ingénieur, parce qu'elle avait dit, oh, si je l'explique à un architecte, il va tout changer. Donc elle a expliqué à un ingénieur qui a fait des plans, et elle a donné ce plan à son architecte en lui disant, maintenant, change rien pour la chambre. Le reste, fais ce que tu veux, mais pour la chambre, non. C'est comme ça, c'est ma vision. Donc c'est comme ça que ça se fait. Mais l'architecte dit, non, c'est pas moi qui ai fait ça, j'ai été inspiré. Et... Inspiré, guidé intérieurement dans son dessin.
Mère, oui. La mère, la compagne de Aurobindo. Oui.
Que vous avez.
Elle était là. Oui, j'ai connu. Oui.
Comment vous la rencontre?
La rencontre, c'est que mère voit les gens qui sont près d'elle le jour de leur anniversaire. Et on arrivait le 4 octobre, et le 14 octobre, c'était mon anniversaire, j'avais 22 ans. Juste. Et là, on m'a dit, tu peux aller voir mère. Hein. Je n'étais pas très chaud parce que je ne connaissais pas mère, je ne connaissais rien du tout. Hein. Vous savez, non, je ne veux pas la voir. Je ne suis pas dérangé. Hein. Qu'est-ce que j'ai raconté à mère, un jeune gamin, là, avec, je ne sais pas, 90 ans. Qu'est-ce que je vais lui dire? Vas-y. Et là, j'ai été. Bon, là, c'est l'expérience qui a tout fait basculer. Hein. La rencontrer.
Vous pouvez parler?
Oui, je peux en parler. Mère, c'est. J'étais devant cette femme âgée, hein. Était... Je dis, qu'est-ce que c'est? Ça fait un peu bizarre. Hein, Puis après, une fois que j'étais devant elle, c'est fini, quoi. C'était. Faut rencontrer quelqu'un. Pour moi, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui était présent, vraiment présent, hein, c'est avec une espèce de puissance, de force qui dégageait d'elle, non, une force puissante, tranquille, une force. Et puis tout l'espace changeait, je ne sais pas comment dire, l'espace, c'est comme si on rentrait dans une autre géographie, hein, non. Une autre géographie, c'est autre chose. Et puis elle vous regarde, et puis c'est fini. Elle vous transperce, mais gentiment, avec beaucoup d'amour. Et puis Et moi, j'ai compris que c'était pourquoi j'étais venu, quoi. C'était pour elle. Hein. Et que c'était une histoire, une très vieille histoire, parce qu'elle m'a tiré hein, du 93, elle avait la banlieue parisienne pour me retrouver devant elle. Et je suis resté, j'ai su que c'était là, quoi. Donc je voulais aller là où elle était. Elle était quelque part, quoi. Elle était. Après, par la suite, bon, j'ai compris un peu ce que c'était, mais ça a pris du temps. Mes mères, c'était ça, quoi. C'était. Ouais. C'est comme si on rencontrait le divin, si vous voulez. Mais bon, à cette époque, moi, je connaissais rien, je savais rien. C'était elle. Quoi. Donc, j'ai posé ma valise et puis voilà.
Il y a de très beaux exemples qui sont faits en Colombie pour un ami Dario Angulo qui travaille en Colombie avec des blocs de terre comprimés. Ce qui est en plus proche de l'Europe, il y a Martin Jaor qui est un Autrichien qui construit uniquement en terre crue, sans ciment, sans chaux. Donc il fait de très très beaux bâtiments en terre complètement crue, donc des maisons individuelles. Il a fait la grande usine de Ricola en Suisse, tout en pisé cru. Il y a de très beaux exemples aussi en Espagne avec une piscine, avec du pisé avec un petit peu de ciment. Donc tous les murs de la piscine sont en pisé avec un petit peu de ciment. Le Fernand Platbord.
Et qu'en fin de compte, tu es connu dans le monde entier, mais pas connu localement. J'ai fait mes études le soir. Parce qu'à l'époque, mes parents étaient très pauvres, donc j'ai fait toutes les études supérieures le soir. Je suis rentré au bureau d'études des ASEC de Charleroi, 17 000 personnes à l'époque, et j'ai gravi les échelons dans le bureau d'études jusqu'au jour où les bruits ont circulé, qui est la câblerie, puisque j'étais dans la division, allait déposer le bilan. Comme on venait de construire et qu'on était jeunes mariés, je travaillais pour une petite PME qui s'occupait de la maintenance des briqueteries, d'où vient la presse à briques. Alors, comme tout diplômé hydraulicien et tout ce qui s'ensuit, j'ai été approché par la coopération suisse et canadienne, qui consistait à faire une machine toute automatique pour faire les maisons pour le bidonville de Rosso, Mauritanie, 200 000 réfugiés. C'était à l'époque où il y avait des soucis avec le Polisario et tout ce qui s'en fait. Et j'ai fait cette machine toute automatique. Puis cette machine, elle est partie là-bas. La coopération suisse m'a demandé si j'acceptais d'aller la mettre en route en Mauritanie. Et ça a été mon premier voyage en Afrique.
C'était montrer au monde ce que l'on peut faire à partir d'un désert avec 54 nationalités.
Et puis rappelez-vous, 75, c'est la première crise de l'énergie. Tous les jours, c'était la croix et la bannière pour trouver 20-30 litres de mazout qui doublaient de prix tous les jours. Ben oui, les blancs sont là, faut en profiter. Donc, de discussion en discussion, je viens à dire, ben, votre projet ne va pas marcher. Quand vous n'aurez plus de finances là-bas et tout, ça va s'arrêter. Il faudrait revenir à des systèmes de base. Mais comme j'étais dans cette PME, il y avait tous les archives. Et donc j'ai retrouvé des schémas de dessins de 1875, qui s'appelaient à l'époque un nom très familier qui est à l'honneur aujourd'hui, l'Amadelon, qui a permis à tout le nord de la France et tout ce qu'ils ont su à se reconstruire après la guerre 14-18. Mais il y avait un gros problème à cette presse-là, c'est qu'elle était faite pour la terre cuite. Donc on n'avait qu'à, disons, 7-8 tonnes à avec deux, manipulé par deux personnes. Donc ce n'était pas suffisant puisque la terre stabilisée telle que vous l'avez vue à Roville et tout ça, ben, il faut au minimum 15 tonnes et alors encore faire des choix de terre. Et j'ai repris cette machine-là en modifiant tous les bras de levier pour obtenir ce qu'on désirait, c'est-à-dire 15 tonnes avec deux personnes. Et cette machine, elle était très robuste.
Fernand Platbrot.
Je suis aussi un militant. Surtout ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Moi aussi, j'avais un diplôme technique supérieur, mais je n'avais pas de diplôme commercial. Hein? Or, j'avais dit à certains moments, parce que au fil du temps, j'ai découvert une de mes presses en Guinée-Conakry, achetée par une société française, qui m'en achetait une dizaine tous les mois, c'était un bon client pour moi. Mais le jour que j'ai retrouvé cette presse en Guinée qui était mal réglée, que j'ai retiré ma veste devant les Africains, j'ai réglé la presse et puis la presse marchait comme du tonnerre, imaginez-vous la joie. Et suite à ça, je dis, mais comment est-ce que vous vous êtes procuré cette presse? Je vois le numéro, c'est un France. Oui, c'est une firme française qui était établie à Conakry qui nous vend cette presse. Est-ce que je peux savoir le prix que vous avez payé cette presse? Vous n'allez pas me croire. C'était 17 fois le prix que moi je l'avais vendu. Donc, ils sont revenus pour avoir des autres presses. J'ai dit, monsieur, vous n'aurez plus de presse. Pourquoi? J'ai retrouvé vos presses en Guinée, vous les vendez 17 fois le prix que je vous les vends. Ah, mais ça, c'est le commerce international. Non, monsieur, c'est du vol. Et aujourd'hui, le circuit court et tout ça, est-ce que nous ne sommes pas encore revenus dans ce système que les agriculteurs, hein, que les gens qui cultivent des fruits et tout ça doivent les donner à Villebrugge? J'attendais ce matin que le melon se vendait à 40 cents et était vendu par les grandes surfaces à 2,80 €. 7 fois le prix. Donc j'ai toujours été un militant, mais...
Fernand Platbrot.
J'étais pas dans la norme, donc aucune banque me faisait confiance. Or moi je revenais avec des commandes, je sous-traitais. Et chaque fois que je sous-traitais à des entreprises, parce que comme je connaissais le secteur...
Fernand Platbrot, c'était un très bon ami qui avait fait une très bonne machine pour les bocs de terre comprimées. Ici, on fait aussi des bocs comprimés avec une machine qu'on a conçue nous-mêmes, avec la machine Oram. Mais Fernand avait conçu une machine qui s'appelle la Testaram. Et c'est vraiment une excellente machine, vraiment très très bonne machine. Il a vendu des milliers, je ne peux pas dire des millions, mais des milliers de machines en Afrique, un petit peu partout dans le monde.
Les gens ont toujours essayé de comprendre, mais pourquoi est-ce que tu appelles technologie appropriée? Monsieur, vous avez déjà été en dehors de chez vous, de l'Europe. Eh bien, je vous conseille d'aller voir un petit peu l'Afrique, l'Amérique latine, et vous allez voir dans quel contexte on est obligé de travailler. Donc, si vous voulez, ça, peut-être que j'étais fait pour ça aussi.
Fernand, c'est pas seulement quelqu'un qui vend des machines, qui fait des milieux appropriés pour construire avec de la terre ou des choses plus vertes aussi maintenant, mais c'est quelqu'un qui veut faire du développement durable avec les gens.
Fernand Platbrot, avant de passer au moulin et aux éoliennes, s'apprême Serge Mani.
Et donc c'est pour ça qu'il n'hésite pas à vendre les machines à moitié prix, à donner beaucoup d'aide gratuite aux gens, à les aider, conseiller pour le développement de systèmes. Il avait fait aussi des pompes très très simples qu'il pouvait faire dans les villages eux-mêmes, avec des rondelles en cuir par exemple pour tout ce qui est les joints étanches et ainsi de suite. C'est quelqu'un de très inventif, de très créatif et qui était vraiment porté vers le développement durable avec les gens. Donc quelqu'un de très bien.
Comment se fait-il qu'il se trouve ici?
Moi, je suis confronté à des sociétés pignon sur rue qui me copient au point de vue presse. Or, moi, j'ai aussi tenu comme discours, et ça, les gens n'arrêtent pas, moi, je ne prends pas de brevet. Mon brevet, c'est ma qualité et c'est mes relations avec l'utilisateur. Et qu'est-ce qui a fait tout mon commerce que, soi-disant, je n'avais pas fait d'études? C'est mes utilisateurs, c'est le bouche à oreille. Or, vous savez, à certains moments, on m'appelait Monsieur Fernand de Belgique.
Donc c'est une machine qui est faite, ce qu'on appelle des blocs de terre comprimés. Donc on prend de la terre avec un petit peu d'eau, on mélange un petit peu d'eau, de l'ordre de 10 à 12% d'eau avec la terre. Donc on va les mélanger soit à la main, soit avec une machine qui avait fait aussi plate brute. Enfin, on avait fait des machines motorisées pour mélanger la terre. Donc on met ça dans une machine et on la comprime avec un système mécanique ou motorisé. Donc Fernand a développé la Testaram, qui est une machine manuelle, où il faut deux personnes au levier pour l'opérer, une personne qui l'opère. Il a aussi développé deux machines motorisées, une semi-automatique et une totalement automatique. Et donc là, où l'énergie est faite par un moteur, avec soit électrique, soit diesel, donc ça va plus vite, c'est plus résistant, mais ça demande moins de main d'œuvre. Je pense dans le monde entier, beaucoup en Afrique, ça c'est sûr. Je sais qu'il en a voulu quelques-unes en Inde, moins en Inde quand même, mais beaucoup en Afrique, beaucoup aussi en Amérique du Sud, parce que cette technique de bloc de terre comprimé est venue d'abord d'Amérique du Sud. Elle a été développée en Colombie avec un programme qui s'appelait SINVA, donc ils ont créé ce qu'ils appellent la SINVARAM pour faire des blocs de terre comprimés avec une machine. Et donc, Fernand a vendu beaucoup en Amérique du Sud, parce que c'est une machine bien supérieure à la SINVARAM. RAM, ça vient du mot anglais damé. C'est pour ça que vous trouvez bien souvent toutes les noms des machines qui sont faites pour damer la terre ou pour comprimer la terre avec comme des blocs. Il y a toujours le mot RAM dedans qui vient de l'anglais damé. C'est pour ça que nos machines, on les appelle ORAM, la machine d'Auroville pour damer. La Testaram pour comprimer la terre, Testaram de Damé. La SINVARAM du programme SINVAR de Damé.
Donc elle s'appelle Testaram. Pourquoi ? Testa, vous avez compris, c'est pressé. Et RAM, c'est que toutes les machines qui sont utilisées dans la terre, que ça soit pour faire, se terminent par RAM. SILVARAM, parce que la SILVARAM a été une presse. Qui est fabriqué dans le monde entier. Et même après Testaram, elle a été fabriquée la première fois à Cuba, elle a été fabriquée à Haïti, elle a été fabriquée au Brésil. Et au Brésil, j'ai été voir l'atelier invité par la coopération française.
Comme dit Chobindo, si tu as une brillante idée, mais que tu n'as pas de moyens, commence.
J'aimerais beaucoup qu'il fasse son école. Mais moi qui vais au Ladakh, je connais aussi des endroits où ça existe, où on apprend aux jeunes à reconstruire, améliorer là-bas, pour quand il fait moins 15 dehors, il fait 15 à l'intérieur. Alors qu'en principe, s'il fait moins 15 à l'extérieur, à l'intérieur il fait, je sais pas, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, c'est bien.
Parce que c'est par ton travail que les moyens vont venir vers toi. Je traduis mal ce qu'a dit Chomedo, bien sûr, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, il faut se lancer, il faut jeter à l'eau pour faire les choses, et puis on barbotine, on patauge, on peut peut-être se noyer, mais on fait toujours surface, et puis on retrouve les choses, et puis on trouve les moyens. Et cette école va venir, mais il nous faut de l'aide.
Jean de Thiers, Fernand Platbrot, trésor vivant de la créativité artisanale en faveur de la construction en terre crue. Héritier d'une longue lignée en Wallonie d'artisans et d'entrepreneurs ingénieux, inventeurs de technologies intermédiaires d'éco-construction.
Écoutez, j'ai jamais été à Roville, mais vous avez compris. Maintenant que vous avez été, vous avez rencontré Jean de Thiers, maintenant vous venez me raconter que nous avons le même esprit quand même.
Je vous ai expliqué tout sur la presse à briques. Eh bien, j'ai repris, en fin de compte, la production d'électricité de la même manière. Donc, mon esprit, à moi, c'était de dire, en Afrique, il ne vaut certainement pas connaître l'évolution que nous avons connue. Parce qu'à l'époque, quand je revenais, que je voyais les premières installations photovoltaïques en Afrique, on me raccourcissait en disant tout de suite, oh, arrête de raconter tout ce que tu vois en Afrique. De toute façon, nous, on n'a pas assez de soleil, le photovoltaïque ne marchera pas.
Fernand Platbrot.
Vous savez, à certains moments, je le dis, j'ai souffert et j'en ai rigolé. Mais quand on n'est pas bureau d'études et qu'on est pratique, et qu'on arrive à des résultats concrets, vous n'avez pas que des amis. Hein.
Il ne faut pas se raconter l'histoire ici. On n'invente rien.
Vous avez là 6 spots de 400 watts. 6 fois 4, ça fait 2 kW 4. Dans un village, mon idée, Je vais vous la dire aussi. Mais bon, le problème, c'est que j'ai tellement d'idées, mais je n'ai plus la force ni le temps de le faire. C'est que quand vous voyez toute cette jeunesse en Afrique, mon idée, et ça c'était aussi partagé avec le Cater, et si on faisait des jeux d'enfants, que les enfants des carrousels, que les enfants s'amusent et qui éclairent leur village et qui éclairent des dispensaires.
Je m'appelle Isis, Isis Roux Pagès. Elle est vivante à des degrés et à des niveaux dont on n'a même pas idée, je pense. La Terre porte bien plus que ce que la science peut découvrir. Et je pense qu'elle est un symbole qui universellement touche les hommes et les femmes parce que en fait c'est la même matière que ce qu'on est. Et d'ailleurs même au niveau scientifique, les scientifiques commencent à entreapercevoir que l'apparition de l'argile, qui est l'élément indispensable avec lequel on construit, qui est aussi un élément indispensable pour d'autres artisanats, l'argile a joué certainement un rôle dans l'apparition de la vie sur Terre. Mais on n'en sait pas plus, l'argile a encore plein de mystères à dévoiler.
Tout ce qui est environnement, écologie, blablabla, je veux dire, dans le monde entier, c'est fait à encore mieux, techniquement, on va dire. Bon, seulement c'est des produits commerciaux. Ici, non. C'est au contraire un don. La seule très grande différence que je vois entre ici et le monde extérieur, c'est qu'on est là pour travailler, pour apprendre en conscience.
Et vous me disiez, Fernand Ladron,
c'est ici que la meule va se trouver. Ici, ça va être toute la machinerie, là. Au premier étage, ça va être la buterie, où on va récolter la farine. Et au rez-de-chaussée, ben, ça sera un bureau d'accueil. Et les ailes, bon, ben, elles feront un rayon de 20 mètres puisqu'elles vont venir à 50-60 cm du sol. Parce que quand il faudra réhabiller les ailes de toile pour le faire tourner, il faut qu'on monte et on part du sol et on l'attache en haut et puis on redescend. Mais ça, il va nous apprendre. Enfin, je vais essayer de trouver des jeunes.
C'était montrer au monde ce que l'on peut faire à partir d'un désert avec 54 nationalités, dont beaucoup sont en guerre à l'extérieur. Et ici, on travaille ensemble, même si encore des divisions, on travaille ensemble. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, 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 très important. Ce que j'aime avec le projet d'Euroville, c'est qu'on ne peut pas dire la fin.
Dans les moulins à farine, ils avaient un gros souci. C'est que quand il leur arrivait de ne pas mettre du grain, les meules du silex contre silex, ça fait des étincelles et foutait le feu au moulin. Donc, c'est pour ça que ici, c'est un système tout simple, de niveau, et que quand il n'y a plus de froment, ça fait gling, 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 gling. Et ça, on va reconstituer ça. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, le meunier, il avait aussi sa couchette tout près. Et c'est pour ça d'où vient la chanson « Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite ».
Je découvre, ça fait des années que je suis dans la terre, d'une manière ou d'une autre, et je découvre petit à petit la puissance, la grandeur de ma relation avec la terre, et rien que d'en parler, j'ai l'émotion dans la voix. C'est beaucoup plus que ça. C'est une matrice, c'est une manifestation, c'est tout et c'est rien. C'est à la base de la vie, ça peut prendre n'importe quelle forme. Je sais pas, je dirais un peu simplement, c'est comme une grande mère. Je pense qu'à Auroville, c'est un symbole qui a beaucoup de sens. Dans le Yiting, les deux premiers trigrammes sont d'abord Heaven et le deuxième est Earth. Et Earth, c'est tous les potentiels. Mais sans l'idée du Heaven, elle n'est rien. Mais c'est elle qui peut tout faire, qui peut contenir toutes les potentiels, qui peut nourrir n'importe quelle chose. Et je crois que c'est en ça que ça me touche particulièrement. Et ça ne me préoccupe pas vraiment. J'imagine qu'il retournera à la Terre, puisque je suis faite des mêmes atomes, recombinés différemment, et puis avec peut-être une petite lueur en plus, mais... Oui, ça retournera à la terre. De toute façon, tout retourne à la terre. Il n'y a pas beaucoup de matière qui part dans l'espace. Au fond d'une rivière, en haut d'une montagne, quelque part, il y aura des atomes qui se seront recombinés.
Ce qui m'intéresse aussi beaucoup à Auroville, c'est le fait qu'on ait 54 nationalités et que l'on doit vivre ensemble, communiquer, apprendre à travailler ensemble et ouvrir tout ça pour former un seul corps. Pour l'instant, je suis désolée de le dire, même si ça ne plaît pas à certains, on est un corps divisé. Et maintenant, il faut unir ce corps. Et unir ce corps, c'est d'abord s'unir soi-même. Tant qu'on n'est pas uni avec nous-mêmes, on ne peut pas s'unir avec l'extérieur.
Architecture, les 50 ans d'Auroville. Avec à Auroville, Anne, Gilles Guigan, Ernest Imhoff, Serge Mani, Isis Roux-Pagès, Gérard Maréchal et à Cudessart, Fernand Platbrot. Architecture, les 50 ans d'Auroville, par Thierry Genico. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.